André Breton est un poète français du XXe siècle. Il est le chef de file du surréalisme puisqu'il est l'auteur du Manifeste du surréalisme en 1924. Le surréalisme est un mouvement culturel qui a pour principe la transcription par les formes artistiques des mécanismes de l'inconscient, du psychisme et du rêve. André Breton a beaucoup écrit sur l'amour, notamment dans son œuvre « L'amour fou ». Et dans ce recueil poétique qui s'appelle « Clair de terre », qu'il publie en 1931, figure un poème, « Union libre », un poème en vers libre qui décrit la femme aimée. Nous allons nous demander quelle est l'originalité de ce poème d'amour. Tout d'abord, nous verrons que ce poème d'amour est original par le renouvellement de la forme poétique qu'il propose. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons que ce poème exprime une nouvelle vision de l'amour. Tout d'abord, je vais vous lire un extrait de ce texte. « Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. » Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres. » Pour commencer, donc, nous allons voir que ce poème propose un renouvellement de la forme traditionnelle du poème d'amour. En effet, nous allons voir que ce poème est un blason, mais un blason original. Pour rappel, un blason est un poème qui s'attache à décrire une partie ou l'ensemble du corps de la personne aimée de manière fragmentée. Ce poème est donc bien un blason puisque nous avons l'énumération d'un grand nombre de parties du corps de la femme, la chevelure, la taille, la bouche, les dents, la langue, les cils, les sourcils, les épaules, etc., jusqu'à la fin du poème, où il va être question des yeux, du sexe, des fesses et du dos de cette femme qui est décrite. Ce portrait semble suivre un ordre, à peu près, de la périphérie, le visage, puis la périphérie du corps, les épaules, les poignets, les doigts, les jambes, pour ensuite s'attacher au centre du corps, le buste, le cou, les seins, le ventre, le dos, les fesses, le sexe, puis à la fin du poème, le retour vers les yeux, qui n'ont pas été décrits au début du poème. On a donc bien un blason, cependant, on peut voir que les éléments de description de ces différentes parties du corps sont des métaphores qui associent chaque élément du corps à un élément du monde selon différentes analogies assez étonnantes. En effet, on a en partie des analogies par ressemblance de forme, par exemple la taille de sablier vers 3, les épaules de champagne vers 15, les jambes de fusée vers 25, les pieds de trousseau de clé vers 29, les hanches de lustre et de peine de flèche, ou encore le dos d'oiseau qui fuit vertical, qui peut rappeler la colonne vertébrale. On a d'autre part des analogies par ressemblance de couleur, avec la bouche de cocarde par exemple vers 5, les dents d'empreinte de souris blanche vers 6, les cils de bâton d'écriture d'enfant, ligne vers 11, les seins de creuset du rubis vers 35 les seins de spectre de la rose sous la rosée vers 36. Donc certains éléments se ressemblent par leur couleur ou par leur forme. On trouve des analogies un petit peu plus étonnantes puisque certains éléments sont comparés avec d'autres choses par ressemblance de texture ou de goût, d'odeur. Par exemple, les tempes vers 13, ma femme aux tempes d'ardoise, de toit de serre, qui peuvent évoquer l'humidité des tempes, ou ma femme aux aisselles de nuit de la Saint-Jean vers 21, là aussi pour la chaleur et l'humidité, ma femme à la langue d'ambre et de verre frotté vers 7, qui évoque la rugosité de la langue, ma femme à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée, ou ma femme aux fesses de dos de cygne, vers 49 qui peut évoquer la douceur de la peau des fesses. Et enfin, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens qui, là, par analogie de goût, désigne cette partie du corps de la femme. On peut aussi, dernièrement, trouver donc des analogies par ressemblance de mouvements, avec par exemple, au vers 9, ma femme a la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, c'est-à-dire qui peut évoquer les mouvements de la bouche, le fait que la langue n'est pas toujours visible, ma femme aux jambes de mouvements d'horlogerie, ma femme d'horlogerie, voilà, vers 26, donc il peut évoquer le mouvement, le balancement des jambes, et ma femme aux hanches de balance insensible, qui là aussi évoque le mouvement de la démarche. On a donc un blason, certes, mais un blason original, puisque les analogies et les métaphores qu'il utilise sont assez étonnantes. Dans un deuxième temps, sur ce renouvellement de la forme poétique, on peut voir que la structure du poème, elle aussi, est très étonnante, puisque ce poème est fondé sur une structure de répétition et de surprise. En effet, on a une structure fixe, puisque le poème est construit sur l'anaphore « ma femme », qui revient dans la grande majorité des 60 vers de ce poème, avec la structure répétée, la préposition « a » ou « au », suivie d'un élément du corps, « ma femme a la chevelure », suivie d'un complément du nom, « de », et un nom et un adjectif, donc « ma femme a la chevelure de feu de bois ». Et cette structure est répétée de manière extrêmement présente tout au long du poème. Cependant, au sein de cette structure très fixe, nous avons des éléments d'inattendu, puisque les analogies dont j'ai parlé sont très étonnantes, et on a également une absence de lien logique entre tous ces éléments, on a juste une succession, une juxtaposition de ces différents éléments. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas non plus de régularité dans ces vers, puisque c'est en vers libre, donc nous avons des vers de taille tout à fait variable. On peut aussi voir que le poème s'attarde de plus en plus sur les éléments décrits, puisque au début du poème, le poète consacre environ un vers à chaque élément du corps, puis cette tendance va en s'agrandissant, puisqu'on a deux vers consacrés à la langue, deux vers consacrés aux doigts, deux vers consacrés aux pieds, trois au sein, trois au dos, trois aux fesses, quatre au sexe, et six, pour finir, six vers consacrés aux yeux de cette femme. On peut donc ici parler dans ce poème d'une union libre des mots, avec cette liberté dans le choix des vers libres, dans l'absence de rime et de ponctuation, une liberté dans la progression du poème, qui se fonde vraiment sur la juxtaposition, un typique du surréalisme, ces métaphores qui sont très surprenantes, et certaines même qui résistent à la compréhension, puisque certaines analogies reposent sur plutôt un jeu phonétique qu'un véritable sens, par exemple les bras de la femme sont comparés à des bras d'écume de mer et d'écluse, donc là qui font référence à l'expression de bras de mer ou de bras d'écluse, sans vraiment d'analogie de ressemblance. Les mollets de moelle de sureau, cette analogie repose sur la paronomase, le rapprochement de deux mots qui se ressemblent mais qui sont de sens différents, entre mollet et moelle, mais pas sur une analogie concrète de ressemblance visible. Voilà. On a donc bien ici un renouvellement de la forme poétique, une grande liberté prise avec la forme traditionnelle du blason. Dans une deuxième partie, on va voir que ce poème, en plus de proposer un renouvellement de la forme, propose un renouvellement de l'expression même de la nature du sentiment amoureux, puisque on a un poème qui va diviniser la femme, ce qui est assez traditionnel, mais en même temps préfigurer une forme de danger et exprimer la volonté d'une union libre, d'une union amoureuse libre. Donc tout d'abord, effectivement, on voit dans ce poème que la femme aimée est divinisée avec cette structure dont j'ai parlé, l'anaphore plus le complément, la partie du corps plus le complément, qui vient former une espèce de litanie, comme ça une prière adressée à cette femme, qui peut aussi évoquer les épithètes homériques qu'on trouve dans l'Odyssée, par exemple Ulysse aux mille tours. Donc ici on a ce même format, ma femme a la chevelure, ma femme aux pensées, etc. On peut aussi remarquer qu'il n'y a aucune fin à ce poème, puisqu'il a cette liberté par rapport à la ponctuation, donc il n'y a pas de phrase, et il n'y a pas de point final, il n'y a pas de fin, possiblement il n'y a pas de fin à ce poème. Enfin, on ne sait pas si ce poème est une description, le « ma femme » est-il une troisième personne, un « elle », ou est-ce une adresse ? Est-ce qu'il parle à sa femme ? Est-ce qu'il s'adresse à sa femme comme dans un dispositif, effectivement, de prière ? Outre donc cet aspect, cette divinisation de la femme dans ce poème, on peut quand même remarquer que l'amour qui est décrit semble très dangereux, puisque le poème s'attache à évoquer le temps qui passe à travers certains éléments, comme par exemple ma femme à la taille de sablier vers 3, ou ma femme aux jambes de fusée, vers 25. Il est également fait mention de l'horlogerie au vers 26 et le dépliement d'éventail des jours. Le dépliement d'éventail des jours qui est à au vers... excusez-moi. Vers 37. Voilà, donc les évocations du temps qui passe, qu'on peut ici rapprocher du tempus fugit, ce motif poétique traditionnel. Mais ici, en plus, l'évocation du temps qui passe peut être exprimée aussi par la rapidité des métaphores, la succession de ces métaphores et leur caractère surprenant qui accentue l'impression de rapidité, ce que André Breton appelle une image étincelle. On peut également donc voir aussi la présence d'une menace ou d'une violence, d'un danger dans cette description de la femme aimée, puisque sa taille, par exemple, est comparée à une loutre entre les dents du tigre, vers 4, ou sa langue est comparée à une hostie poignardée, vers 8. Sa femme est aussi comparée à une poupée qui ouvre et ferme les yeux, ce qui peut évoquer la rapidité de la vie et la survenue de la mort. On trouve également des images de danger avec les dauphins sous la glace, vers 16, la griffe géante, le rendez-vous dans le lit même du torrent, vers 32, qui là aussi évoque la menace d'être emporté. Et enfin, la chute d'un verre dans lequel on vient de boire, vers 43. Voilà, on peut aussi parler de la prison qui est évoquée à la toute fin du poème, « Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison », ou de « Bois toujours sous la hache » vers 59, qui évoque le danger, l'imminence de la mort. Pour finir, on peut voir que ce poème en fait exprime le désir d'une union amoureuse libre, avec un refus de l'engagement qui est exprimé à certains égards, puisqu'on retrouve par exemple la mention de l'hostie poignardée vers 8, qui vient évoquer le refus du mariage religieux, avec la mention donc de l'hostie comme symbole de la religion catholique. On peut donc en conclure que l'appellation de ma femme n'a ici rien d'officiel, ce n'est pas son épouse, c'est simplement la femme qu'il estime posséder par amour. Plutôt donc qu'un engagement marital, le poème exprime ici la vie d'une couple d'amants dans l'instantanéité, comme l'évoquaient les mentions du danger que j'ai expliqué, mais aussi donc dans la surprise constante que cette vie sans engagement implique, avec donc ces mentions de chance et de hasard, par exemple, donc ma femme au doigt de hasard et d'as de cœur, vers 18, ou encore... Et d'autre part, on trouve aussi l'idée de la sensualité qui est largement évoquée avec la soif, par exemple, des calfas qui boivent vers 29, la soif comme l'expression d'un désir organique, d'un désir réel, physique envers cette femme, ainsi que le torrent dans lequel le couple se donne rendez-vous vers 32. On a pour finir l'idée de l'épanouissement et de la floraison qui est évoquée avec les fesses de printemps, ligne vers 50, et de rose sous la rosée à propos des seins vers 36. On a donc bien dans ce poème ici l'expression originale de l'amour par la forme, typique des surréalistes, très libre par rapport au format du blason dans lequel ce poème s'inscrit, et également par la nature du sentiment amoureux qui est exprimé, là aussi un amour très libre, très fugace, toujours menacé et toujours renouvelé.